Léa Salamé, votre invitée ce matin est géographe, essayiste et auteur de No Society, la fin de la classe moyenne occidentale, publiée chez Flammarion.
Bonjour à vous Christophe Guillouis.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous avez théorisé, popularisé depuis 15 ans ce que vous appelez la France périphérique, la France sacrifiée par les vainqueurs de la mondialisation. Vous n'êtes donc pas étonné de voir cette classe moyenne blanche appauvrie se réveiller depuis 3 semaines. Vous n'êtes pas étonné par l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes. Mais avez-vous été surpris ce week-end par le degré de colère, de ressentiment et même de violence aussi qui s'est exprimé notamment sur les Champs-Élysées ?
Oui, bah la violence évidemment, j'allais dire, mais aujourd'hui on a quand même des mouvements sociaux à chaque fois qui dégénèrent, hein. c'est pas une première, le 1er mai dernier on a eu aussi exactement les mêmes phénomènes. Mais sur le fond, on a bien quelque chose qui s'enracine dans un modèle économique, alors ce qu'on appelle le modèle économique mondialisé. C'est pour ça que je dis toujours, ce que j'ai vu il y a une quinzaine d'années, c'est simplement quelque chose qui était ancré finalement dans les choix économiques réalisés depuis 30 ans, pas depuis. Tout ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas conjoncturel. Quand j'ai dessiné les contours de cette France périphérique, ce concept en fait, il est né de la répartition dans l'espace des catégorie modeste, hein. C'est comme ça que j'arrive à la France périphérique, quoi, à ses contours. Mmh. Or, et depuis une trentaine d'années, on a une fragilisation de ces catégories-là. Pour une raison simple, et ça, il faut se reporter aux travaux de Thomas Piketty, hein. On a un modèle mondialisé qui est de plus en plus clivé, qui polarise l'emploi, qui concentre les richesses, qui concentre les emplois les plus qualifiés. Et donc, vous avez aujourd'hui, bah, finalement, des gens qui vivent sur des territoires non pas qui se paupérise, mais en tout cas qui crée très très peu d'emplois.
C'est cette France périphérique là qui manifeste, c'est elle les Gilets jaunes.
Oui, on peut regarder les cartes, etc. Mais si vous voulez, moi j'avais fait les cartes justement de la France périphérique à partir de ce que j'appelle la fragilité sociale des territoires. Hein. Fragilité sociale, c'est quoi? C'est d'abord des gens, hein, parce que les territoires ça n'existe pas. Hein. Ce qui existe, c'est les gens qui vivent sur les territoires. J'arrive au territoire par ces catégories populaires. Or, ces catégories populaires vivent aujourd'hui sur des territoires qui créent très peu l'emploi.
Le démographe Hervé Lebras dit que la cartographie des Gilets jaunes se situe autour de ce qu'il appelle la diagonale du vide, une zone rurale qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées. Il dit que c'est cette zone rurale qui fait le gros des effectifs des Gilets jaunes et pas les zones périurbaines.
Oui, alors,
vous êtes en désaccord avec lui?
Oui, alors là, on est vraiment dans le débat géographique.
Non, mais c'est intéressant aussi.
Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux, c'est que la France périphérique, précisément, n'est pas la France périurbaine, n'est pas une France urbaine et n'est pas une France rurale. Elle est un peu tout ça à la fois. Moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de partir du social, de partir de ces catégories. Je me fiche de savoir si le type vit dans le rural ou dans la petite ville du coin.
C'est intéressant aussi, majorité, de savoir d'où ils viennent.
Mais bien sûr. Alors, effectivement, il y a des gros bataillons, des gros contingents dans cette France rurale, puisque évidemment, c'est la France la plus éloignée, donc celle qui a le plus besoin de la voiture pour circuler. Mais en fait, il faut voir beaucoup plus large. Ce qui est intéressant, c'est pas décrire tous ces phénomènes sociaux par les marges nous interdit de voir ce que j'appelle l'éléphant dans la boutique de porcelaine.
C'est-à-dire que l'éléphant, depuis 15 ans, c'est la classe moyenne.
C'est la classe moyenne. C'est-à-dire que je dis depuis 15 ans, il y a un éléphant qui est malade. Et on me dit, mais oui, d'accord, mais alors il y a éventuellement une petite tasse ébréchée sur l'étagère, mais c'est pas... Non, la réalité, elle est là devant nous. Et ce qu'on paye aujourd'hui, c'est pas uniquement la révolte de quelques types dans le rural. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Quand vous regardez les mobilisations, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a aussi eu des mobilisations en banlieue, hein, il y a eu les VTC en Seine-Saint-Denis, etc. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus large. En réalité, les catégories qui ont manifesté, c'est tout autant l'ouvrier, que le paysan, que le fonctionnaire de catégorie B.
Qu'est-ce qu'il a voté au premier tour, le gilet jaune en moyenne, si on il a voté
encore,
Marine Le Pen, Mélenchon, il a voté abstention,
il a voté
fait
un peu tout ça. Je veux dire, à partir du moment où moi je décris des catégories qui sont potentiellement majoritaires, faut quand même le rappeler, hein, les classes populaires en France, d'ailleurs comme en Europe et aux États-Unis, restent majoritaires. On les voit peu ou moins parce qu'elles sont très éloignées, mais elles sont de fait majoritaires. Ces catégories ont voté à droite, ont voté à gauche, ont voté à l'extrême droite, ont voté à l'extrême gauche, mais surtout, ce sont des catégories qui se sont désaffiliées. Elles sont désaffiliées non pas parce qu'elles ont envie de se désaffilier, mais parce que l'offre politique ne correspond plus à leurs demandes. Donc on voit bien quelque chose qui est beaucoup plus large que la question politique. En réalité, ces catégories ont déjà abandonné le clivage gauche-droite. Et d'ailleurs, c'est très 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 drôle, puisqu'on a Macron est un type qui s'est fait lire en faisant péter le clivage gauche-droite. Mais le problème, c'est quand vous faites péter le clivage gauche-droite, il reste pas rien. Il reste, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, un immense conflit de classe inconscient. Il n'y a pas de conscience de classe entre le haut et le bas. Mais ce conflit de classe, il est en train de s'exprimer. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir que dans ces gilets jaunes, vous pouvez retrouver des types qui ont voté Mélenchon, des types qui ont voté Le Pen, ou des types qui n'ont en général pas voté. Et d'ailleurs, je dis des types et des femmes, parce que c'est très important aussi de le dire, on l'a relativement peu dit, la surreprésentation des femmes dans ce mouvement, ce qui n'est pas un hasard, puisque les femmes sont aussi celles qui occupent les emplois les plus précaires en France, et accessoirement celles qui gèrent les budgets dans ces ménages-là.
Christophe Guilluy, c'est le peuple. C'est le peuple.
Bien sûr, mais évidemment, je veux dire, mais c'est pas un gros mot. Je veux dire c'est le peuple, c'est simplement nous avons des catégories qui ont du mal à boucler les fins de mois. Alors effectivement, elles ne sont pas forcément dans la case pauvre, mais n'oublions pas une chose, les pauvres, les chômeurs, aujourd'hui, viennent de ces catégories populaires. C'est-à-dire que quand vous avez un emploi sur ces territoires-là, vous pouvez vous dire, je m'en sors encore, mais sauf que ce sont des territoires qui créent très peu d'emplois, et quand vous avez une perte d'emploi, très vite, c'est la case chômage. Et pauvreté.
Oui,
qui
mais
derrière.
Ceux qui ont manifesté samedi contre les violences faites aux femmes, et je rappelle qu'ils étaient plus nombreux à Paris que les gilets jaunes, ou ceux qui votent encore Emmanuel Macron, c'est pas le peuple ?
Mais bien sûr que oui, je veux dire, moi je fais pas de distinguo, etc. En plus, justement, j'explique dans l'ouvrage, c'est qu'une société n'est saine que si le haut parle au bas, et si le haut parle au nom du bas. Hein, je donne toujours cet exemple, mais le Parti communiste hier, c'était une base ouvrière, une base populaire, mais aussi des intellectuels, des universitaires, etc., etc. Nous avons, et c'est ça le sens de No Society, qui est une expression que je reprends de Margaret Thatcher, c'est l'idée que aujourd'hui on a cette déconnexion au bas, alors qui n'est pas, j'allais dire, voulu. Il n'y a pas des types qui se sont réunis autour d'une table en se disant nous allons chasser le peuple. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait, par porosité, et effectivement il y a un effet de bulle, c'est pour ça que je parle de la géographie, parce que nous vivons tous dans les mêmes lieux, et effectivement le contact il se fait de plus en plus difficilement.
Vous dites que le problème d'Emmanuel Macron, et de manière générale de la France d'en haut, qui regarde sidéré ce mouvement des Gilets jaunes, c'est, je vous cite, l'impossibilité de penser avec empathie son propre peuple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire que on le voit assez rapidement. Je veux dire, dès que le mouvement est parti, très vite, il a été ostracisé. Très vite, on a présenté ça comme un truc de beauf, xénophobe, etc., etc. Évidemment qu'il y a eu ces dérives racistes, etc., etc. Mais je dis toujours, le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre, elle peut aussi s'exercer très très fortement dans le monde d'en haut. Elle est beaucoup plus discrète, mais elle existe aussi. Bref, quand vous présentez les choses comme ça, évidemment, ou quand vous dites c'est un mouvement d'extrême droite, ou un mouvement uniquement de ruraux, ploucs, etc., vous mettez tout ça dans la marge. Donc c'est une façon de se mettre à l'écart.
Qu'est-ce qu'elle attend, cette France-là ? Est-ce qu'elle attend de l'argent ? Est-ce qu'elle attend de payer moins de taxes ? Ou plus simplement de la considération ?
Bien sûr, elle attend évidemment d'être intégrée économiquement, et ça c'est un immense problème, parce que nous avons un modèle économique qui n'est pas nul. Si nous avions un modèle économique qui était nul, la mondialisation c'est nul, changeons de modèle et puis passons à autre chose. Ouais. On a un immense problème.
Il est inégalitaire.
Il crée énormément de richesses, sauf qu'il ne fait pas société. Donc les gens veulent être intégrés économiquement et respectés aussi culturellement.
Il avait théorisé sa politique, Emmanuel Macron, lors de la toute première interview qu'il avait donnée à TF1 il y a un an. Oui. Il avait dit, les premiers de cordée, si on les aide, tireront avec eux toute la société vers le haut. Ça finira par bénéficier à tout le monde. Cette vision de l'économie ontologiquement libérale, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Vous ne pensez pas que ça peut bénéficier à tout le monde ?
Non mais moi je suis prêt à acheter tous les modèles, il n'y a pas de problème. Si ça marche, je prends. Si le premier de cordée ça marche, je prends. Si la métropolisation ça marche, je prends. Sauf qu'on peut faire un constat. 30 ans plus tard, on a bien une augmentation des fractures sociales, culturelles, territoriales, et donc ça ne marche pas. Donc il faut penser effectivement à un modèle économique mondialisé, mais aussi un modèle, j'allais dire, non pas alternatif, mais au moins complémentaire sur ces territoires-là.
Christophe Guilluy, je vous pose la dernière question qu'on posera à tous nos invités cette semaine, qui a rien à voir, enfin, qui peut avoir à voir. Et vous faites quoi pour la planète ?
Alors, j'ai arrêté le diesel, mais je continue à cloper.
No Society, la fin de la classe moyenne occidentale, c'est chez Flammarion. Merci à vous, Christophe Guilluy, et veuillez m'excuser pour cette voix qui n'est plus contrôlée. Merci.
Mais qui est très belle. Merci Léa, et rendez-vous à 8h20 pour le grand entretien dont, je vous le rappelle, l'invité est l'ancien président de la République, François Hollande.